Le podcasting évolue, mais j'ai l'impression que la masse critique évolue pas autant ou aussi rapidement que ceux qui font du podcasting. Je vous dis ça parce que l'autre fois, je suis allé à Podcamp Toronto et ça m'a surpris comment, après un 10e Podcamp Toronto, les mêmes questions reviennent que lors du tout premier. Et la question piège, la question clé qui est invariablement la première qui est posée aux podcasteurs indépendants, que je trouve absolument ridicule, c'est comment est-ce que je peux faire pour faire de l'argent avec le podcasting? Je trouve ça ridicule parce que le podcasting, c'est d'abord et avant tout un hobby. Et comme n'importe quel hobby, il y a peu de chances qu'on soit payé pour le faire. Et au contraire, on va investir de l'argent dans notre hobby. Comme par exemple, si on décide de collectionner les timbres, les pièces de monnaie, on va dépenser des sous. Si on décide, par exemple, de faire du scrapbooking, faire du crochet, faire la cuisine, si on décide que ce sont nos hobbies, ben on va payer, on va dépenser des sous pour réussir à faire ça. Puis si on veut une meilleure qualité, ben on va acheter de l'équipement de meilleure qualité, puis ça va être comme ça. Pourquoi avec le podcasting, c'est différent? Ben, je pense que c'est la perception qu'ont les gens de l'idée de parler dans un micro, comme si on allait devenir une superstar parce qu'on se met le bec derrière un micro. Moi, je compare ça souvent à, bon, n'importe quel autre hobby, mais au camping, par exemple. Tu sais, si tu vas suivre une formation sur le camping et la survie en forêt, tu arrives là, la première question qui va arriver, ça ne sera pas « Excusez, comment est-ce que je peux faire de l'argent avec le camping? » Ça serait absolument ridicule. Mais moi, je me demande pourquoi c'est si différent que ça avec le podcasting. Et moi, j'ai toujours envie de répondre, bon, même si ce n'était pas moi le conférencier en fin de semaine passée, là, j'ai toujours envie de répondre, « OK, tu connais rien sur ce hobby-là, tu ne sais pas comment en faire, tu n'as aucun équipement, tu n'as aucune idée comment faire fonctionner cet équipement-là, tu n'as aucune expérience, donc tu ne sais pas comment créer ce contenu-là, tu ne sais pas comment le mettre en ligne, tu ne sais absolument rien faire. Tu es un total newbie et tu veux déjà que les gens te payent pour le faire. Et c'est comme dans n'importe quoi, même si, par exemple, c'est ton métier, tu t'en vas à l'école pour apprendre sur un métier, faut pas que tu t'attendes à ce que les gens te payent pour réussir à faire quelque chose, alors que tu n'as même pas mis le pied encore dans un cours. Et moi, comment je pourrais dire, j'ai hâte que ça se termine ou que les gens arrêtent de faire ça et qu'ils comprennent que d'abord et avant tout, pour avoir du succès, il faut d'abord vouloir partager quelque chose sur un sujet. Et d'après moi, les questions devraient toujours tourner autour de ça. Mon nom est Sylvain Grandmaison. Vous écoutez Le Québec en balado-diffusion. je me suis dit, tant qu'à faire comme si, comme il y a 10 ans, aussi bien de vous faire jouer une chanson d'il y a 10 ans, ou plus ou moins, c'est une chanson du groupe Uncle Seth, You Don't Need an iPod. C'est une chanson qu'ils ont faite justement, qui parlait du podcasting, vers quoi, 2005-2006, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas exactement. Je l'ai déjà fait jouer à l'époque sur mon émission. Et puis, c'est toujours drôle de... Ben, c'est drôle de réentendre ça parce que les chiffres qu'ils donnent là-dedans, puis les statistiques, puis l'information, c'est juste un autre contexte aujourd'hui, le podcasting. Donc, bienvenue au Québec en balado-diffusion. Et là, je vais en décevoir plusieurs. Non, il n'y aura pas de carburant de la semaine. J'enregistre ça le matin, en fait, en avant-midi. Donc, on va laisser faire pour la bière, sauf que j'ai de l'information pour vous à propos d'une bière qui est la Molson 1908. Qu'est-ce que c'est que ça? Molson a eu la bonne idée, enfin, de rééditer des bières historiques. Ça se fait dans d'autres brasseries. La brasserie la mieux connue qui fait ce genre de choses-là, c'est Fuller's en Angleterre. Fuller's réédite travaille des fois avec les fabricants de malt pour refaire des recettes historiques le plus près possible de la réalité. Donc, Molson a fait ça. C'est une pale ale et quand même avec beaucoup d'amertume. Molson nous a habitués ces dernières années et pas juste Molson, la plupart des grandes brasseries ils nous ont habitués à réduire l'amertume des bières. Réduire la saveur pour que ça goûte l'eau pétillante, finalement. Et celle-là, au contraire, on revient à ce que c'était et on se rend compte qu'à l'époque, la bière était très, très amère. Et je vous jure, selon ce que j'ai lu, c'est 3 à 4 fois plus amère qu'une Molson normale. Molson normale, Molson d'aujourd'hui, on s'entend. Donc, c'est pour un temps limité. C'est aussi refermenté en bouteille, ce que fait plus Molson, je dirais depuis les années 60 environ, et peut-être même 50, peut-être même avant. Donc, avec la souche originale de levure de Molson. Donc, c'est quelque chose à essayer. Je ne l'ai pas essayé encore. J'ai hâte que ça arrive dans un magasin près de chez nous. C'est sûr, je connais des gens qui ont goûté. Ils ont beaucoup critiqué, disant « Ah, c'est bon, mais c'est pas si bon que ça, ça reste du Molson. » C'est sûr qu'à un moment donné, on s'en sort pas. La levure de Molson goûte ce qu'elle goûte. Il y a une limite de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut changer. T'sais, si on veut recréer une recette historique, c'est ce que ça goûtait à l'époque. Donc, je sais que Molson a aussi travaillé avec les fabricants de malt pour faire ça. Moi, je salue cette initiative-là. Moi, ça fait longtemps que je pense que Molson aurait dû faire ça. Et je souhaite qu'ils vont continuer comme ça à ressortir des anciens produits. Ils ont produit des IPA, des Porter, toutes sortes de bières comme ça à l'époque qui étaient beaucoup plus savoureuses que ce qu'ils ont l'habitude de produire aujourd'hui. Donc, je les félicite pour cette initiative-là. Si je vous reparle du dernier épisode où ce que je parlais de l'avenir de la radio qui a de certaines difficultés, je pourrais vous reparler d'un autre article qui est sorti récemment qui dit au contraire, la radio demeure quand même la source primaire d'informations à travers le monde parce qu'avec la radio, on rejoint toujours 70% de la population mondiale, ce qui n'est pas rien. En fait, c'est sûr que c'est pas tout le monde partout dans le monde qui a la télé. C'est même surprenant parce que dans plusieurs pays, les gens ont des téléphones intelligents, mais n'ont même pas encore la télé. Tout le monde, ou presque tout le monde, a accès à la radio. Donc, il y a une force là. Il y a une puissance là. C'est sûr qu'avec justement les téléphones intelligents, l'Internet et toutes les plateformes, ça peut devenir, je dirais pas en danger, mais ça risque de changer, la game risque de changer pour la radio, et je maintiens mon point là-dessus, même si c'est encore un médium qui est extrêmement, extrêmement fort. Dans ce texte-là, que je vous partagerai sur le site, donc allez voir les notes de l'émission, on nous dit qu'il y a toujours 40 000 stations de radio terrestres. Ça aussi, ça n'a pas vraiment changé depuis 10 ans, même si il y a eu, par exemple, des réseaux, des fusions, tout ça. Ce qui arrive, c'est que il y a plusieurs radios qui font partie d'un même réseau et ces réseaux-là diffusent la même information bien souvent pour tout le monde durant certaines heures. Donc, même si c'est des réseaux, parfois il y a encore quelques heures de contenu exclusif régional, ce qu'on devrait tenter de continuer à faire, mais de plus en plus, ça tend à s'uniformiser. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est ce qui fait que les gens s'identifient moins à la radio et c'est ce qui va continuer à éroder les parts de marché de la radio ou plutôt compromettre sa survie à long terme. Je ne sais pas si vous savez, mais la plateforme Medium permet de faire du podcasting. Donc Medium, c'est une plateforme un peu de blogging. Contrairement à d'autres plateformes qui ont du micro-blogging, bien Medium permet de vraiment d'écrire des blogs, mais de moyenne durée. Et c'est aussi une plateforme d'échange. Donc, c'est à mi-chemin entre Twitter et un blog normal. Et ça permet de faire des podcasts. Donc, vous pouvez aller faire un tour là-dessus. Vous pouvez aller essayer ces choses-là. Ceci dit, SoundCloud aussi permet de faire du podcasting. Donc, si vous ouvrez un compte SoundCloud, je pense que j'ai effleuré le sujet l'autre fois. Donc, je suis allé faire un tour. Si vous avez un compte SoundCloud, vous pouvez configurer pour le podcasting. Donc, vous publiez là, c'est disponible en podcasting. La seule chose que je n'ai pas vérifiée, c'est est-ce que les fichiers sont disponibles en téléchargement pour utiliser sur un site externe? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est bien SoundCloud. C'est une belle plateforme. Il y a un beau player là. Le seul hic, c'est que si on bâtit quelque chose puis on renvoie les gens sur SoundCloud, ils ne sont pas sur notre propre site. Et si un jour SoundCloud fermait et si un jour vous décidiez, je ne sais pas, ils décident de changer les règles pour produire des podcasts et on doit payer, on est un peu pris à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que moi, je ne mettrais pas tous mes œufs dans le même panier. Si je produisais avec SoundCloud, je m'assurerais de pouvoir quand même mettre ça sur mon propre site à moi et demeurer quand même à quelque part indépendant avec ça. Donc, si vous voulez aller faire un tour, ça serait intéressant de regarder ça sur SoundCloud. Ah oui, j'oubliais de vous dire, il y a un texte qui a été écrit l'autre fois qui disait que SoundCloud pourrait être en difficulté, pourrait fermer. Je ne sais pas qui a diffusé cette information-là, que ça pourrait fermer. En fait, c'est un texte que j'ai vu sur Wired, donc qui peut quand même être assez sérieux. Faut dire que il y a d'autres plateformes audio. Faut dire aussi que SoundCloud gruge aussi des parts de marché à des YouTube, par exemple. Vous allez me dire que YouTube, c'est autre chose, c'est pour la vidéo. Je dirais oui, mais il y a beaucoup de gens qui diffusent de l'audio et qui mettent juste une image fixe. Je ne sais pas d'où vient cette idée-là que SoundCloud pourrait fermer. Et c'est quoi la logique derrière cette nouvelle-là? C'est que SoundCloud serait endetté d'environ 44 millions de dollars. Et si vous voulez mon avis, tant qu'à moi, c'est complètement normal. Ça fait partie de la vie, de l'écosystème d'une start-up que d'avoir des dettes, que d'être allé chercher du financement puis d'arriver au bout de cet argent-là. Donc, selon moi, SoundCloud n'est pas en difficulté nécessairement. Il y a peut-être une certaine précarité. Ils sont peut-être en train d'essayer d'aller chercher d'autres argents, d'autres financements, mais je pense pas qu'ils soient en difficulté. Ceci dit, j'aime beaucoup SoundCloud. T'sais, je l'ai dit tantôt, c'est une belle plateforme. Il y a un beau player. Le seul hic, tant qu'à moi, là-dedans, c'est que il n'y a pas de palmarès. Il n'y a pas, ce qu'il y a sur YouTube, par exemple. C'est-à-dire un engin de recherche puissant, de la recherche organique, des suggestions basées sur ce qu'on est en train d'écouter. En fait, tout ce qui prend la place, c'est ce qu'on est en train d'écouter en ce moment. Et le player, après ça, ben, nous fait jouer automatiquement autre chose. Ça, c'est pas mauvais, mais en autant qu'il y ait d'autres suggestions ou qu'on puisse aller ailleurs, puis dans la plateforme de SoundCloud, selon moi, ce qui fait défaut, c'est ce genre de choses-là. J'imagine qu'ils vont chercher des sous pour ajuster ça, pour faire autre chose. Je leur souhaite. Ça ferait drôlement du bien. Et ben, c'est sûr que s'il y a d'autres changements au niveau de cette plateforme-là, je vous en parler. Je vais vous en parler. Je vais vous tenir au courant. Je vous fais jouer une chanson. C'est une autre chanson libre de droit, PodSafe, qui s'appelle qui vient d'un groupe qui s'appelle Arrow and Olive. Et je vous fais jouer ça, je vous parle tout de suite après. I think it's time to call your landlord. Just tell him that you're moving out. Yeah, you're tired of his stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place.
My place.
Your place.
Your place.
A little hideaway. A little sweet escape. My place.
My place.
Your place.
Your place.
A little hideaway. Et oui, cette chanson-là, je l'ai trouvée sur Jamendo.com. Et il y a peut-être certains d'entre vous qui vont être surpris d'apprendre que ça existe encore. Oui, ça existe encore, Jamendo. C'est toujours de la musique libre de droit. C'est toujours un réseau pour faire découvrir de la musique indépendante. Donc, les artistes indépendants mettent leur musique-là pour la faire découvrir, pour qu'on la fasse jouer. C'est libre de droit en autant que notre licence, notre podcast où notre projet soit disponible sous licence Creative Commons. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de sous nécessairement et qu'on partage à tout le monde de la même façon qu'eux partagent. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour sur Jamendo. Vous venez de le voir, il y a quand même de l'excellente musique. Il faut faire un peu de recherche. Et c'est sûr que c'est une plateforme qui a mis du temps à évoluer. Maintenant, l'interface est bien mieux qu'avant. Ça pourrait être encore amélioré, ça aussi. Et le problème avec Jamendo en ce moment, c'est qu'ils font face à tous les services en streaming qui ne coûtent pas très cher et qui ont à peu près toute la musique du monde et des engins qui font des suggestions très organiques de musique. Donc, allez quand même faire un tour, allez les encourager, ça vaut la peine. Et si vous avez un podcast, ben profitez-en pour aller chercher de la musique là. Il y a eu un article du Wall Street Journal qui parle de la publicité dans les podcasts et qui parle, entre autres, du fait qu'il y a le podcast Serial qui a fait découvrir le podcasting à une tonne de gens, tout ça. Et que ça attire un peu plus les annonceurs, mais pas tant que ça en ce moment. On prévoyait l'an passé qu'il allait avoir environ 35 millions d'argent qui allait être mis en publicité pour les podcasts. Alors que si on compare à la radio seulement aux États-Unis, on parle de 18 milliards investis en publicité radio et 67 milliards pour la publicité télé. Donc, si on rappelle les chiffres, 35 millions sur les podcasts, 18 milliards en radio, 67 milliards en télé. On est encore loin des chiffres. Les gens hésitent encore beaucoup à mettre de la publicité dans les podcasts. Pourtant, toutes les recherches le montrent, le démontrent, et ça encore une fois, que les gens qui écoutent des podcasts, c'est des gens qui ont un peu plus de sous que la moyenne, un peu plus d'éducation que la moyenne, consomment en moyenne beaucoup plus d'audio que n'importe qui d'autre, et qui sont très réactifs justement à la publicité quand c'est bien fait. Et c'est peut-être là aussi un des problèmes de la publicité dans les podcasts, c'est que beaucoup d'annonceurs voudraient faire de la publicité traditionnelle comme ils le font à la radio et à la télévision, et ça ne peut pas marcher. Étant donné que c'est un médium de proximité, où est-ce que, par exemple, je vous parle dans vos écouteurs ou peut-être que vous m'écoutez dans votre voiture, il y a une proximité qui est là, qui n'est pas nécessairement là quand on écoute vaguement la radio au travail, en musique de fond, par exemple, tout ça. Donc, on ne peut pas s'adresser aux gens de la même façon. Ça demande une production spécifique et c'est un côté que les annonceurs ne sont pas nécessairement prêts à assumer. L'autre chose, c'est la connaissance du médium. Les annonceurs ne connaissent pas tous le médium. Faut encore faire de l'éducation, faut expliquer. Même si le podcasting, comme on le connaît aujourd'hui, a presque une douzaine d'années, c'est encore difficile. Même si il y a presque un Américain sur cinq qui écoute des podcasts à chaque mois, c'est encore difficile. Les annonceurs, puis c'est très terre-à-terre ce que je vais dire, c'est que les annonceurs aiment encore ouvrir la télé puis voir le bel pub, ouvrir la radio puis s'entendre. C'est disponible, c'est rapide, c'est là. Le podcasting, ça demande un effort. Sauf que c'est de la publicité extrêmement ciblée parce qu'on cible très finement quelles sont les émissions, qui sont nos auditeurs, tout ça. L'autre chose qui est encore difficile, c'est que il y a la perception que les podcasts, les métriques ne sont pas précises. Alors qu'elles le sont, il n'y a aucune autre forme de média audio et vidéo, à part peut-être YouTube, qui a des métriques aussi précises. La télé, la radio, même si on a des décodeurs dans nos maisons et que les gens peuvent mesurer exactement qui écoute combien. On ne sait pas, il n'y a peut-être personne devant la télé. Je connais beaucoup de gens qui mettent la télé juste en background. Même chose pour la radio. Alors que le podcasting, on sait précisément le nombre de téléchargements qu'il y a eu sur quelle plateforme, tout ça. Est-ce que ça a été écouté en partie ou en entier? On ne le sait pas. On ne le sait pas exactement. Et c'est, pour moi, c'est la même chose qu'avec la radio ou la télé. C'est très, très comparable. Donc, cet article-là est assez complet. On nous dit les coûts. Les coûts par milliers de téléchargements. Donc, c'est sûr que dans les programmes, sur les podcasts, ce qu'on demande, c'est entre 50 et 100 dollars qu'on paye par milliers de téléchargements. Donc, c'est cher placer de la pub dans les podcasts. Si on compare, par exemple, à YouTube ou à plein d'autres, c'est sûr, c'est plus cher, mais c'est beaucoup plus ciblé. Et le genre de gens à qui on s'adresse est aussi beaucoup plus réceptif, je dirais, à l'audio. Donc, allez voir cet article-là. C'est vraiment très riche et ça nous éclaire beaucoup. Ben oui, je le disais tout à l'heure, je ne vous ai pas partagé l'année passée parce que bon, j'étais un peu moins actif, mais les chiffres de Edison Research qui font la recherche sur le podcasting à chaque année, à savoir combien de gens écoutent des podcasts, c'est quoi les métriques par rapport à ça. Et c'est sûr que ça a augmenté beaucoup l'an passé avec justement Serial, avec tous les nouveaux podcasts qui sont en explosion en ce moment. C'est quoi les chiffres? Ben c'est 17%. Le chiffre important à se rappeler, c'est 17% des Américains de plus de 12 ans, ce qui est quand même beaucoup de monde, ont écouté des podcasts au cours du dernier mois, n'écoutent régulièrement, t'sais, mois à mois, au moins un par mois, ce qui est quand même beaucoup. La même question était posée en 2006 et de mémoire, c'était faible. Là. C'était quelque chose comme 7%. Ce qui est aussi surprenant, c'est le fait qu'il y a eu un creux. Ça a augmenté. Ça a un peu plafonné vers 2010. Ensuite, ça a réaugmenté un peu. Et ça a redescendu autour de 2013. Et là, depuis 2013, 2014, 2015, c'est en croissance constante. Et je pense aussi qu'en 2016, ça doit être... on n'a pas encore les chiffres. Normalement, ça sort à ce temps-ci de l'année, vers février. Ces chiffres-là. Donc, si les nouvelles informations sortent, je vais vous tenir au courant. Mais ça éclaire beaucoup sur le type de gens, le pourcentage de la population qui écoute des podcasts, tout ça. Donc, ça aussi, allez regarder ça, ça vaut la peine de jeter un œil. Je vous l'ai dit, je suis allé à PodCamp Toronto pour la, quoi, 7e fois à peu près. Je l'ai manqué environ 3, si ma mémoire est bonne, ou 2 ou 3, en tout cas, bref. Ça n'a pas tellement d'importance. Il y avait un peu moins de monde cette année. Pourquoi? Ben, ça s'explique entre autres par le fait qu'il y a tellement d'événements de médias sociaux à Toronto à chaque semaine. Les acteurs du milieu sont sollicités, donc ça fait en sorte que ils vont peut-être un petit peu moins à PodCamp. Sauf que ça s'est recentré un peu plus vers le podcasting. De ce que j'ai lu, il y avait peut-être autour de 350-400 personnes sur place. Donc, ça équivaut à peu près à ce qu'il y avait dans nos premiers PodCamp Montréal. Donc, c'est relativement peu. Si on compare qu'il y a déjà eu plus de 1000 personnes qui se sont présentées. Sauf qu'il y avait plus de sessions sur le podcasting, presque à toutes les heures, à tous les moments qu'il y avait des conférences. Il y avait Il y avait au moins une et parfois deux conférences sur le podcasting. Ça, c'est ce qui était surprenant parce qu'on s'est déjà retrouvé une année où est-ce qu'il y avait, je crois, deux conférences sur le podcasting durant tout le week-end où est-ce qu'il y avait 7-8 sessions en parallèle qui roulaient constamment. Donc, ça, c'était assez intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? J'ai des amis qui ont fait des conférences. Donc, entre autres, mes amis Bob Goyette et Anthony Marco, qui ont fait une session qui s'appelait une session à propos du podcasting à PodCamp, donc version 2016, parce que c'est un peu une blague sur le fait que par le passé, il y a eu des années où il n'y avait pas beaucoup de sessions à propos du podcasting à PodCamp, ce qui est un peu paradoxal. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont fait le A to Z, c'est-à-dire, ils ont pris toutes les lettres de l'alphabet, puis ils ont accolé un mot, puis ils ont expliqué pourquoi c'est important. Donc, A, audio, B, bitrate, etc., etc. C'était aussi le lieu pour parler de podcasting indépendant. Les raisons pourquoi n'en faire, justement, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, ça, c'était vraiment super intéressant. C'est une session qui a été très appréciée des participants. L'autre à laquelle je me suis beaucoup amusé, c'est mon ami Ken Ball, que j'ai déjà parlé, mieux connu sous le nom de Scarborough Dude. C'est un gars qui fait du podcasting indépendant dans sa forme la plus pure. C'est-à-dire que il se fout de ce que les gens pensent. Il fait pour lui-même. Il fait pour partager. Il parle de lui-même. Et son niveau de production audio est assez bas. C'est-à-dire qu'il enregistre plusieurs segments durant la semaine et tout ce qu'il fait, il utilise juste un logiciel juste pour les mettre bout à bout, sans intervention autre que de les mettre bout à bout. Donc, c'est vraiment le fun. Il fait du podcasting depuis 10 ans. Même plus de 10 ans. Toujours sans se préoccuper de ce que les gens pensent. Et il est très actif dans le milieu du podcasting indépendant. Donc, il est toujours venu à PodCamp Montréal. Il va toujours à PodCamp Toronto. Quand il y a des événements, il participe dans tout ce qui n'est pas commercial. C'était très drôle. C'est un bonhomme de... Il a l'âge de mon père, dans la soixantaine. Ancien hippie. Il fume du pot depuis plus de 30 ans et il en parle ouvertement. Et il a commencé sa conférence après quelques minutes en envoyant chier le monde, en disant, certains disent que j'ai un anger management problem. Et en bas de sa slide, il a écrit « fuck you ». Et il a demandé à tout le monde dans la salle de dire « go là ». Envoyez-moi chier, dites-moi un beau fuck you tout le monde ensemble. Et à go, tout le monde lui a dit fuck you. Il a dit ah, merci, ça me fait du bien, tout ça. Donc, c'est un gars extrêmement drôle qui a un humour propre à lui, puis qui a vraiment un univers à lui au niveau du podcasting. Moi, je l'aime bien parce que je le connais, mais je l'aime bien aussi parce qu'il n'y a pas de filtre et ça fait du bien, ce genre de choses-là. Il y a eu des sessions sur le podcasting de la radio de la CBC, donc CBC Radio. La première conférence, c'était à propos de Podcast Playlist. C'est une émission qui parle de podcasting, une émission créée d'abord en podcasting, qui est disponible aussi à la radio de la CBC. Je pense que c'est les samedis après-midi. Donc, pas une heure nécessairement de grande écoute. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est disponible en balado et c'est très populaire. Il parle de podcasting, de podcast, je dirais, indépendant entre parenthèses. Pourquoi entre parenthèses? C'est parce que les podcasts qui parlent et les podcasts qui recherchent lorsqu'ils en parlent, c'est des podcasts qui sont très formatés, qui ont un format un peu plus radiophonique. Donc, c'est sûr que c'est de la qualité en même temps. C'est pas nécessairement représentatif de ce hobby-là et de la majorité des gens qui produisent des podcasts. Parce que, tu sais, il y a plus de 100 000 podcasts à travers le monde. C'est pas vrai que c'est tous des gens de radio. C'est pas vrai que c'est tous des gens qui produisent de façon professionnelle. Et je dirais que c'est le bémol que je mets. En même temps, ils m'ont fait découvrir certains shows en écoutant leur émission que, depuis la semaine passée. Donc, c'est vraiment quelque chose à écouter. Un des podcasts qui m'ont fait découvrir, c'est Song Exploder. Donc, je vous le conseille. C'est un podcast qui décortique des chansons. Donc, comment ils ont été créés, comment ils ont été écrites, comment ils ont été produites. On entend des fois juste la partie, par exemple, la guitare dans une chanson de U2 ou comment Björk est arrivé à produire certaines de ses chansons. Et c'est fait en collaboration avec les artistes en question. Donc, on entend The Edge puis Bono raconter le processus de la création de leurs chansons. On entend Björk parler de l'orchestration, comment elle a créé ça, comment ça a été enregistré, quel micro, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de le fun à écouter. En même temps, c'est pas tout à fait du podcasting indépendant. Pourquoi? Ben parce que c'est backé par Radiotopia. Radiotopia, c'est une initiative, je pense qu'il y a eu un financement, du sociofinancement, pour aller chercher des gens. Donc, c'est des podcasters, entre parenthèses, indépendants, très professionnels, qui sont recrutés, qui sont payés pour produire ça par cette initiative-là. Donc, c'est plus ou moins indépendant, mais c'est quand même, ça vaut la peine d'être écouté. L'autre session à Podcamp Toronto qu'il y a eu sur le podcasting par la CBC, c'est comment ils choisissent ce qu'ils font jouer à la CBC. Donc, il faut savoir que contrairement à Radio-Canada, on peut soumettre des émissions. On peut soi-même quasiment devenir un animateur de radio à la CBC. Donc, en soumettant des projets. C'est sûr que si on a un projet plus professionnel, on a beaucoup plus de chances que si on enregistre quelque chose d'un peu moche. Donc, ça aussi, ça valait la peine d'aller à cette session-là. En même temps, c'est pas les sessions les plus stimulantes quand on va dans un podcamp. Celles faites par les podcasteurs indépendants sont beaucoup plus sympathiques. On rigole beaucoup plus. En même temps, un coup que les conférences ont été finies de la CBC, les gens de la CBC sont venus nous voir, les podcasteurs indépendants, vu qu'on a commenté tout ça, sont venus nous voir. Puis là, ils nous ont posé beaucoup de questions. Puis ce qui était un peu fascinant, c'est qu'à la place d'aller les voir, nous, on a attendu dans notre coin et ce sont eux qui sont venus nous voir. Et là, on s'est retrouvé un peu en position de force parce que c'est eux qui sont venus nous poser des questions sur le podcasting, c'est eux qui nous ont demandé d'écrire de l'information, de leur donner l'adresse de nos podcasts, tout ça. Et on a eu un meilleur contact, un meilleur rapport de force que tous ceux qui sont allés les voir après puis leur têter de l'information. Donc ça, c'est le fun. On a eu un bel échange avec eux et ça a vraiment valu la peine. Pour clore mon sujet de Podcamp Toronto, ben, juste pour vous dire que les parties font partie du fun d'aller là. Donc, il y a toujours le party un peu plus ou moins prévu qui se passe toujours à la même place, qui est dans un pub très au centre-ville. Et sinon, le samedi soir, il y a un party plus organisé qui est presque toujours au même endroit. Et on se ramasse toujours aux petites heures du matin dans la chambre d'hôtel d'un autre de nos copains à boire de la bière et ou du bourbon et à s'endormir à moitié sous. Donc, c'est vraiment des belles rencontres qu'on fait. C'est toujours le moment de rencontrer d'autres gens qui ont la même passion que nous et qui ne sont pas là pour faire de l'argent, mais qui sont juste là pour avoir du plaisir. Je vous fais jouer une autre chanson PodSafe et je vous reparle tout de suite après.
I've been rolling around like a lost soul. You picked me up. goddamn, goddamn, don't you wanna let me in? Well, your eyes look like mid-July, but I'm not giving in again. And ooh, ooh, I'm gonna try to resist you.
C'était une chanson d'une fille qui s'appelle Tamara Laurel, toujours trouvée sur Jamendo. J'ai trouvé une autre application et il y en a, on dirait qu'il n'y en a plus là, en ce moment, des applications pour faire du podcasting, du live, tout ça. Une application qui s'appelle Zcast ou Zcast, dépendamment que si vous êtes américain ou canadien ou peu importe. Comment vous prononcez votre la lettre Z en anglais. Ceci dit, ça sert à quoi? Ça sert à faire du live. Ça nous dit qu'on peut, après ça, utiliser le fichier audio pour créer un podcast avec. Donc, je l'ai essayé un peu. Le seul problème, c'est que pour réussir à enregistrer, en fait, faut diffuser, faut dire qu'on va enregistrer une émission. Et il faut que les gens commencent à écouter pour qu'on puisse commencer à enregistrer, ce qui est un peu bizarre. On ne peut pas juste commencer à enregistrer que les gens se joignent. Il faut vraiment qu'il y ait un premier auditeur qui se soit joint à nous. Et comment ça fonctionne? Bien, en fait, on va dans l'application, on dit qu'on veut commencer à diffuser, ça poste l'information sur nos réseaux sociaux et dès qu'il y a quelqu'un qui commence à écouter à l'autre bout, bam, l'enregistrement débute. L'avantage de ce truc-là, par contre, c'est qu'on peut aussi inviter d'autres gens à parler sur notre émission. Donc, les gens qui ont l'application peuvent se joindre. On peut les inviter à faire partie de notre émission. Donc, ça aussi, c'est une façon de faire du podcasting à plusieurs, en streaming et pouvoir publier des fichiers audio par la suite. On peut se mettre en lien aussi avec, avec SoundCloud et ce genre de plateforme-là. Donc, télécharger le fichier audio final sur différentes plateformes. Donc, c'est intéressant à essayer. Je trouve la façon de procéder un peu étrange, que ça nous force comme ça à être obligé de publier et à avoir quelqu'un à l'autre bout qui écoute. Ceci dit, j'ai hâte de voir s'ils vont maintenir la gratuité et pour combien de temps. Je ne suis pas sûr de la viabilité à long terme dans l'état actuel des choses, sauf que c'est vraiment une belle application. Pour faire suite à plein d'applications que je vous parlais l'autre jour, je vous avais parlé de BuzzJock que je me sers en ce moment pour enregistrer l'émission. BuzzJock, c'est une application qui nous permet, qui est totalement indépendante, donc on n'a pas besoin de s'abonner à un service, tout ça. On peut parler dans le micro, puis on peut faire jouer de la musique en même temps, comme je fais. Donc, pas besoin de faire du mixage, tout s'enregistre en temps réel. Et à la fin, on exporte, et en exportant, on peut l'exporter justement vers Dropbox, vers différentes plateformes comme ça, et l'uploader directement par FTP et publier directement à partir de notre application. Donc, ça simplifie le processus beaucoup de publier un podcast. Quelque chose que j'ai découvert que je ne savais pas, c'est que BuzzJock, qui est une application qui coûte environ 10$ sur le store, a une version gratuite. Donc, cette version gratuite-là permet de faire pour l'enregistrement, grosso modo, la même chose, c'est-à-dire de parler dans un micro, faire jouer de la musique comme ça, juste en pesant sur un bouton. Donc, l'interface est encore plus simplifiée parce que on a le bouton pour activer le micro, le bouton d'enregistrement, le curseur pour monter et baisser le son et les boutons pour faire jouer la musique. Il n'y a pas vraiment autre chose à part ça, sinon que c'est une version gratuite. Okay? Donc, contrairement à la version pro de BuzzJock, la version junior ne permet pas d'avoir des notes d'émission directement dans l'application. Il y a moins de boutons pour assigner de l'audio en pesant dessus. Il y a moins de configuration en général. Et aussi, c'est pour exporter. On ne peut pas exporter en MP3, il faut exporter en fichier M4 audio, qui est le fichier format natif Apple. Et si on veut convertir en MP3, ben ça, c'est un achat qu'on doit faire, donc acheter le truc pour convertir, donc le convertisseur. L'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est que et qui limite aussi les choses, c'est l'accès à l'audio, l'accès à notre audio, comme moi, par exemple, sur BuzzJock professionnel, je peux aller dans ma Dropbox, je peux aller un petit peu partout chercher mon audio. Dans ce cas-là, on peut accéder à notre bibliothèque de musique sur notre téléphone, si on est sur notre téléphone, ou sur l'iPad, si on est sur l'iPad. Mais on ne peut pas nécessairement aller dans Dropbox, aller ailleurs comme ça. C'est limité. Mais par contre, on peut, il y a un store pour nous vendre des jingles, tout ça. Donc, si vous ne savez pas où aller chercher de la musique pour faire jouer dans votre podcast, bien, ils ont un store comme ça avec des échantillons gratuits et d'autres pour lesquels on peut payer. Donc, moi, je vous le conseille, si ce n'était pas, bon, la question du MP3 puis de petites choses comme ça, j'aime la simplicité de la version junior. J'ai vraiment apprécié l'essayer puis m'amuser avec. Quoique, si je voulais, je pourrais exporter juste de façon standard dans le format natif, puis après ça, ben, passer par iTunes pour convertir en MP3 ou un autre utilitaire comme ça. Donc, si vous voulez démarrer, commencer à faire du podcast, essayez ça. BuzzJock Junior, c'est gratuit. Vous mettez des musiques qui sont gratuites sur le store ou dans votre bibliothèque d'audio qui de musique qui est sur votre téléphone et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Je voulais vous parler aussi de Première Plus. Première Plus, c'est quoi? C'est une nouvelle plateforme de Radio-Canada où est-ce qu'on offre du contenu que j'appelle à valeur ajoutée. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'anciennes émissions ou des extraits ou des entrevues ou des choses qui ont été enregistrées par Radio-Canada par le passé qui rendent disponibles. Donc, qui seraient peut-être disponibles dans les archives, mais pas classées, pas sorti d'une émission dans laquelle c'était présenté, etc. Donc, ils mettent en valeur des contenus comme ça. L'autre chose qu'ils font, c'est qu'ils produisent du contenu original pour la plateforme, ce qui est une nouveauté. Radio-Canada, à ma connaissance, depuis que Bruno Guglielminetti est parti de là, il y a quoi, 5 ans, 6 ans, il n'y avait plus de podcasts originaux produit et disponible et non publié à la radio. Donc, ça, c'est intéressant. Et je dis podcast parce que tout le contenu qui est là est disponible en balado-diffusion. Donc, ça, c'est un plus pour cette plateforme qui s'appelle Première Plus. Il y a une interface web qui fonctionne, ceci dit, très bien. Chapeau pour l'interface web. Le seul bémol que je mettrais, c'est la disponibilité en balado-diffusion parce que c'est une émission et dans l'interface sur notre téléphone, on clique pour l'avoir en balado-diffusion. Ça va ouvrir notre application de podcasting et ça va nous abonner à un flux, donc à un XML, ce qui est parfait. On dit « wow, ça marche, c'est très bien ». Le seul hic, c'est que ça ne nous abonne pas à la série, ça nous abonne seulement au fichier. Donc, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Je crois qu'on aurait avantage à retravailler ça pour que les gens puissent s'abonner à la série, parce que l'avantage du podcasting, vous le savez, c'est que quand on est abonné, on reçoit les derniers épisodes automatiques. Donc, ça, c'est l'avantage pour l'auditeur. Mais l'avantage pour le producteur, c'est que quand les gens sont abonnés, bien, ils continuent à l'écouter. Donc, de part et d'autre, il y aurait un avantage à faire ça. Et je suis censé parler bientôt aux gens de Radio-Canada pour discuter justement de la plateforme et faire une entrevue et vous en reparler justement sur mon émission. Donc, restez à l'écoute. Je vais sûrement vous en reparler très bientôt. Ceux qui écoutent mon podcast depuis très longtemps vont avoir reconnu ce coup d'harmonica que je faisais jouer jadis sur mon podcast. Très old school, comme on dit. Je vous demande depuis un certain temps d'aller laisser des commentaires sur mon émission, donc dans iTunes, Le Québec en balado-diffusion. Et vous êtes plusieurs à le faire. Et je vous remercie. Et si vous êtes à l'écoute, vous ne l'avez pas fait encore, allez-y. Vraiment, j'ai des auditeurs qui sont là depuis longtemps qui n'ont pas laissé de commentaires et ça me ferait plaisir de vous lire et que vous laissiez aussi des petites étoiles. Ça aide vraiment. Honnêtement, là, je vois une énorme différence. Quand je publie puis que vous mettez des commentaires, c'est incroyable. On retrouve facilement mon émission dans iTunes. Et sinon, après quelques temps, ce soit quelques semaines, ça disparaît doucement comme ça. Récemment, qu'est-ce qui a été laissé comme commentaire? Je vais vous en lire quelques-uns qui ont été laissés depuis que je vous demande de faire ça. Le premier par Mathieu de Québec qui dit « J'aime cette balado-diffusion ». Un Québécois nous parle du phénomène de la balado-diffusion en soi, des nouvelles technologies et de ses dégustations de bière, le tout avec un ton à la fois sympathique et professionnel. Je vous le conseille. Donc, merci. Merci beaucoup de ce commentaire, Mathieu. Je te salue. Autre commentaire, c'est excellent podcast, point. Bon podcast, bonne bière. Et c'est par qui? Les Vikings cognent. Jeu de mots avec King Kong, mais c'est très drôle. Et merci encore à vous du commentaire. Je ne sais pas qui est derrière les Viking Kong, mais c'est sympathique. Autre commentaire. Ah oui, une ancienne étudiante qui a découvert mon podcast, une de mes anciennes étudiantes, qui dit qu'elle était crampée pendant 2 minutes juste à m'imaginer parce que j'avais parlé de mon premier slow avec une fille à l'époque. Donc, c'est très drôle. Sinon, il y en a des récents. Ça, c'est ceux de l'automne passé. Les extrêmement récents. Monsieur Hamel, J.S. Hamel, qui fait lui aussi un podcast qui fait découvrir la balado-diffusion. Donc, il dit « J'écoute ce podcast depuis plusieurs années. Il s'agit de mon préféré, écrit en caps, sur la 50aine auquel je suis abonné. Une bière dégustée en bonne compagnie, des sujets pertinents qui portent à réfléchir ou sur lesquels on se laisse porter. Un ton et un rythme vocal agréable, riche et dynamique. Sans aucune prétention ni fausse modestie, ce podcast roule depuis 2006. » Oui, ça va faire 10 ans cette année. Le 29 avril 2013, je mentionnais mon appréciation et aujourd'hui, le 18 janvier 2016, je suis encore un fidèle auditeur et c'est toujours mon préféré, un gage de qualité, assurément, du pur bonheur à chaque parution. Et écoute, des commentaires de même, on en prendrait des dizaines. Donc, je te salue. Puis bon, j'ai déjà parlé de son show à mon émission. J'avais été invité pour aller parler, donc je vous le recommande encore une fois. Le dernier commentaire par Mike, le Matozoïde. Un bon podcast, classique et efficace, très bon son et un animateur qui sait garder l'intérêt. Je te remercie, je te renvoie l'appareil parce que j'écoute ton podcast à l'occasion, Mike de l'émission Le Super Matozoïde. Un autre excellent jeu de mots. Et au début, quand j'avais lu la première fois ce nom-là, il y a quelques années, je me disais, hey, pour avoir un nom de même, le gars doit avoir de la drive, doit rentrer dedans. Mais non, il est quand même smooth, il est le fun à écouter. C'est intéressant. Puis il a parlé, il parle à toutes sortes de monde. Il parle vraiment des fois des légendes de la musique au Québec aussi. Il interviewe toutes sortes de monde. Je vous le conseille, allez faire un tour. Je vais mettre le lien dans les notes de l'émission. Dernier sujet, parce que là, ça fait presque une heure que je vous parle dans l'oreille et puis j'arrive à la fin de mes sujets. Je suis allé dîner l'autre jour, on était une gang à aller dîner avec le COO, le Chief Organizing Officer, je sais pas, de Shopify, un gars qui s'appelle Hardley, un gars né à Montréal qui a grandi en Floride et qui a installé Shopify à Ottawa. Qu'est-ce que fait Shopify? Bien, ça vous permet facilement de vous créer une boutique en ligne. Donc, ça, c'est vraiment utile parce qu'auparavant, réussir à se créer une boutique en ligne, gérer l'engin, gérer les mises à jour, c'est de l'ouvrage et c'est coûteux. Tandis qu'eux offrent une solution. Il y a une solution gratuite, mais si vous voulez une solution qui est plus béton, à 29$ par mois, c'est excellent. Donc, il nous a parlé de sa start-up, de comment ça se passe, comment il deal des fois avec des grandes vedettes, avec les Kardashian et Kanye West pour leur boutique en ligne, parce qu'il deal directement avec ces gens-là. Comment il a refusé de travailler avec Gap, parce que Gap est trop exigeant et eux ne veulent pas faire des passes droits puis mettre toute leur équipe à travailler sur la boutique de Gap, alors que leurs autres clients, qui sont tout aussi importants, en ont besoin aussi. Puis ils savaient que signer un deal avec Gap, ça voulait dire mettre plus d'effectifs là puis négliger les autres clients. Puis ils ont décidé que non. Soit que vous vous conformez à notre façon de faire à nous, soit que, ben allez faire de la business avec d'autres. Ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Et ils grandissent. Il y avait un bureau à Montréal depuis déjà un certain temps, mais là, ils se sont vraiment bâtis un super bureau avec des grands locaux, la capacité d'agrandir aussi. C'est un bureau, je ne dirais pas classique, mais c'est un bureau de start-up qui va bien. C'est-à-dire des grands bureaux, il y a de l'espace, tout ça. Même que c'est un peu vide. Je vous dirais, en ce moment, je trouve que l'endroit est un peu vide. Il y a une grande cafétéria. La bouffe gratuite pour les employés. Ils mettent tout en place pour que les employés soient bien. Ils sont en train de faire un petit lounge, une place, ça va être la salle de musique qu'ils veulent avoir, faire de la bière. avoir une petite microbrasserie à l'interne. Donc, ce genre de choses-là. On a parlé beaucoup de leur façon de croître, leur façon de modifier leur prix, comment ça a influencé la croissance de l'entreprise. C'est intéressant pour moi aussi parce que j'ai des clients qui veulent partir des boutiques en ligne, puis d'aller chercher de l'information, d'avoir un meilleur contact justement par un des patrons. Et j'ai passé par lui pour parler à des gens à l'interne. Donc, c'est toujours un plus si tu es en rapport de force, de ne pas envoyer un email à l'adresse email générale. Donc, quand tu as un contact avec le boss, de passer par le boss et de te faire recommander, les employés répondent mieux, répondent plus vite. C'est toujours mieux. C'est un truc. C'est un super truc que je vous donne. On ne fait pas ça pour tous les projets, mais disons que pour ça, ça vaut la peine parce que j'ai un client qui veut partir de quoi d'intéressant, puis je pense qu'on va avoir besoin de leur support. Je vous invite encore à aller laisser des commentaires sur iTunes pour mon podcast. Simplement pour vous dire que j'ai enregistré ce podcast-ci avec mon iRig Pre, c'est-à-dire mini-interface audio qui se branche dans le iPhone. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu parce que j'ai fait des tests avec ça. Ça fonctionne quand même assez bien. C'est pas au même niveau que mon super setup avec mon preamp, tout ça. Mais j'ai quand même mon bon micro et ça fait une job, vous voyez, tout à fait acceptable. C'est une question qu'on a dit, ben pas une question, mais quelque chose qu'on a dit beaucoup à Toronto l'autre semaine. La qualité audio, quand c'est correct, quand ça marche, c'est assez. On n'a pas besoin d'avoir un setup à 2000$ comme j'utilise à l'occasion. Quand on a un setup qui offre une bonne qualité, bon, c'est suffisant. Donc, je vous laisse avec ça. Dites-vous que dans la vie, quelque chose de bon, c'est suffisant pour la plupart des situations. Et je vous dis à très bientôt pour un autre Québec en balado diffusion. Ciao!
Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. On the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love. chirping around. Your love put me at the top of the world.